Alors bonjour Philippe Bucher, merci de bien vouloir répondre aux questions d'Actu SF à l'occasion donc des Utopiales 2013 et donc pour l'album, le dernier album de Sillage notamment.
Oui, bonjour.
Alors est-ce qu'il serait possible de faire un peu le point justement sur Sillage et cet album qui est un peu aussi qui arrive à une fin, qui fait un peu une sorte de fin de cycle aussi quelque part un petit peu?
Oui, c'est vrai. Bah, c'est finalement au début, on n'avait pas déterminé un nombre défini de livres. Et là, on est déjà au tome 16, comme le temps passe vite. Et effectivement, on est à peu près, on vient de passer la moitié parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même se limiter. Donc, on s'est dit à 30, ce serait bien. Donc, effectivement, c'est pas mal que là, on a une espèce de. On a l'arrivée d'un personnage assez qu'on avait annoncé, qu'on découvre dans les deux ou trois tomes précédents, par petites bribes. Et puis là, on explique vraiment qui il est. Est-ce que c'est vraiment parce que là, je dévoile rien, mais c'était pas dans le dernier album, mais dans le précédent où l'héroïne découvrait qu'elle avait un fils qui avait pratiquement son âge, donc ce qui est assez bizarre. Mais comme on est en pleine science-fiction, on peut y aller, c'est ça qui est bien.
On a le droit.
Et en plus, les explications sont tout à fait logiques après. Donc, mais j'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et donc, effectivement, là, on est dans un épisode un petit peu charnière, comme tu le soulignais, parce qu'on va quitter certains personnages, et puis on va rentrer de plein pied avec ce nouveau personnage qui va. Prendre une place à part entière dans la saga. Parce qu'on peut parler un peu de saga quand même là.
Effectivement. Et justement, donc dans cette saga, là, on est sur un volume qui est quand même très centré sur l'action. Il y a beaucoup de. C'est très rythmé, il y a beaucoup d'action. Il y a un peu moins de pause que dans certains volumes précédents, notamment, où ça prend un peu plus son temps. Là, on est vraiment dans l'action. Et est-ce que ça a été plus difficile à dessiner, à mettre en scène?
Ce qui était difficile, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a comme on est, il y a une comment dire, une rupture du système de gravité artificielle dans tous les vaisseaux, donc tout flotte partout. C'est un capharnaüm invraisemblable, et donc ça prend du temps à dessiner tous les petits bonhommes, les petits objets qui se baladent. En plus, on pouvait imaginer, moi je pensais que tout était magnétisé, que ça restait en place, mais non, non, il y a plein de vaisseaux, les personnages. Donc là, ça prenait du temps, et puis finalement, c'est il y a une petite course contre la montre, donc ce qui fait qu'on a voulu vraiment faire un album assez linéaire. Sur les autres, on a des fois des scènes avec des ellipses de temps assez larges, des flashbacks, on revient, alors que là on a pratiquement un album qui se déroule dans sa continuité, et puis il y a un ultimatum, et donc effectivement on reste dans les personnages courent tout le temps un petit peu partout. Et donc c'était intéressant à faire, à dessiner plus dur, non, parce que c'est vrai qu'il y a c'est vrai que d'habitude on avait peut-être des scènes un peu plus zen, alors que là il n'y a pas vraiment de moment où on peut dessiner des choses calmes. Donc je dirais que c'est bien parce que ça laisse aussi au dessin une sorte d'urgence qui fait que c'est aussi motivant de dessiner, d'essayer de trouver comment pas se répéter en faisant un personnage qui se bagarre sur 3 ou 4 pages par exemple dans les mêmes endroits, essayer de trouver. À chaque fois des cadrages, une mise en scène un peu nouvelle à chaque page pour pas être répétitif.
Effectivement, est-ce qu'il y a une inspiration un peu sur je sais pas au cinéma des films d'action ou la façon dont c'est mis en place ou c'est
forcément parce que moi je suis vraiment un boulimique de cinéma. Finalement, j'allais dire le secteur qui est le plus pauvre chez moi, c'est la bande dessinée, parce que je lis plus des romans et je regarde plus de films que je lis de bande dessinée. Et finalement, au début, je lisais beaucoup de bande dessinée, mais maintenant, comme j'ai peu de temps, comme le travail prend beaucoup de place, la vie de famille, j'essaye de me consacrer un petit peu plus. Donc finalement, je lis très peu de BD. Et finalement, quand j'ai des références, c'est toujours d'images en mouvement. Je vois que finalement, avec mon scénariste, qui lui a une culture vraiment, je dirais, à 90% de bande dessinée, c'est vraiment un fils de la bande dessinée, parce que je sais que moi, ça m'épatait, parce qu'il avait depuis qu'il était ado, il avait toutes les nouveautés. C'est-à-dire toutes les BD en nouveautés, il les achetait. Mais toutes. Depuis, il a fait le tri, il a revendu des BD, enfin, il s'est séparé d'une partie de ses... Parce que finalement, il ne pourrait plus le faire maintenant, parce qu'à l'époque, dans sa jeunesse, il n'y avait pas tant de nouveautés que ça par an en bande dessinée franco-belge, on va dire, franco-belge pour la bande dessinée. Et en plus, il achetait un peu de comics aussi, donc... Et donc lui, quand on a discuté une fois de la façon dont il voyait le découpage, et lui, il a une vision vraiment en image arrêtée d'une scène. Il peut faire des petits croquis parce qu'il dessine en plus pas mal. Seulement, c'est un feignant, alors il préfère être scénariste que dessinateur. Il se rend compte que dessinateur, c'est trop de travail. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même que il se rendait compte que c'était trop de travail, donc il préférait écrire les histoires parce qu'il peut en écrire plus. Oui, alors que s'il a dessiné en même temps, il dit je passerai 2 ans à dessiner l'album et j'aurais fait qu'une histoire. Et moi, à contrario, je lui disais, moi j'ai du mal à choisir l'image arrêtée parce que moi je vois vraiment la scène se dérouler quand je la lis, je vois vraiment la scène avec les cadrages sont faits, la façon dont ça bouge, vraiment une vision en mouvement, vraiment, parce que je pense que ma culture est beaucoup plus cinématographique. Donc effectivement, le mélange des deux, c'est pour ça que j'ai été bluffé quand j'ai découvert le manga, parce que eux réussissent bien à surdécouper des scènes d'action et à rendre cette... Mais ils ont la place, finalement, ils ont beaucoup de pages, donc ils ont peu de cases par planche, mais ils peuvent se permettre de faire une vingtaine de planches pour une scène, finalement, qui est assez anecdotique, si on veut raconter dans le scénario, qui est une péripétie. Mais finalement, ça marche très très bien... il y a plein de mangas où on a vraiment l'impression d'être dans le mouvement là pour le coup avec des images arrêtées. Donc parce que le plus compliqué c'est de choisir quelle image on prend dans le mouvement. C'est-à-dire on l'arrête là ou un petit peu plus loin et on choisit le cadrage plongé contre plongé. Donc c'est finalement toute l'école que j'ai dû faire. Peut-être que j'étais plus destiné à faire du court-métrage ou de la réalisation, mais en tout cas la bande dessinée est intéressante justement pour ce choix qu'on a à faire. De l'instant I sur une action, donc c'est pas mal.
Et donc, pour revenir un peu plus sur Sillage et la relation entre les personnages, etc., donc il va y en avoir de nouveaux. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir l'histoire prendre une autre tournure?
Nous, on connaît la fin, on avait prévu au début de faire, un album, le premier, qui était une sorte de one shot. Si vraiment il n'y avait pas de lecteur, au moins il y a une sorte de fin, une petite fin. La fin, l'héroïne, elle croit qu'elle est revenue chez elle, puis elle est devenue animal de zoo un petit peu. Donc ça, c'était le premier album. Et on s'était dit, si ça marche un peu, on aura le droit, l'éditeur nous autorisera à en faire deux de plus. Donc on avait prévu de faire un espèce d'album intermédiaire, et puis la fin tout de suite. Donc ça, c'était... on avait à peu près, je dirais, une courbe en arc de cercle avec un point de départ, un point en l'air et puis un point à la fin. Et là, finalement, comme ça a très bien marché, on s'est dit on va pouvoir mettre plein de petits points pour dessiner la courbe. Et finalement, là, on s'est dit une trentaine d'albums, c'est pas mal, puisque finalement, le Sillage, c'est le nom du convoi, mais finalement, la série, elle aurait pu s'appeler Nevis, comme sa petite sœur, parce qu'il y avait une série Nevis sur sa jeunesse. Mais parce que c'est vraiment, ça sera la vie complète du personnage sur le convoi. Donc ce qui nous permettra de balayer. Donc il y aura effectivement, il y a déjà eu des ruptures, puisque Nevis était au début recueilli par Sillage, elle était agent de Sillage, agent spécial, une sorte de on va dire de policier, parce qu'elle faisait des enquêtes en infiltration. Je dirais c'est entre forces d'intervention militaire, des fois des trucs qui étaient presque des missions de légionnaires, parce qu'il fallait y aller dans des conflits. Et finalement là elle est indépendante, elle a voulu, et elle travaille pour, elle est mercenaire vraiment là. Elle a pris assez d'assurance pour dire, pour pouvoir s'affirmer et non pas subir un peu ce qu'on lui imposait. Donc ça fait déjà une rupture. Après, voir comment elle va gérer aussi les paradoxes qu'il y a avec Sillage, qui est une espèce de miroir grossissant de notre société, avec toute la corruption, toutes les belles idées qui sont sur le papier, enfin sur l'holo écran, on va dire. pas trop de papier, et puis ce qui se passe en réalité, où il y a toujours des gens pour le profit, pour différentes choses, pour la politique, pour des aversions entre différentes espèces, qui font que ça tourne jamais pour le bien, pour le bien général, mais plutôt pour des intérêts particuliers. Donc finalement, la science-fiction, la vision que j'en ai, il y a plusieurs science-fiction, mais il y a une science-fiction qui est assez sociale, qui est toujours une science-fiction pour montrer les travers de notre monde d'une façon, j'allais dire, amusante. Parce que c'est des paysans, on a l'impression de pas être chez nous, puis finalement, on est chez nous, et on est exactement chez nous, finalement. Les extraterrestres, ils pensent comme nous. Et il y a une autre science-fiction que je trouve plus poétique, par exemple, dans certains romans, où on invente vraiment des mondes, et ils sont en dehors de nos notions du bien, du mal, etc., et qui sont très intéressantes aussi. Mais c'est de science-fiction que j'oppose absolument pas. Mais je veux dire, nous, dans le space opéra, là, c'était plus... Jean-David est très social, finalement, toutes ces BD, elles ont un fond social, elles traitent d'un problème particulier, que ce soit les médias, comme il avait fait certaines BD... les trafics de drogue, la condition des femmes, enfin, à chaque fois il y a un fond social, donc c'est pour ça qu'on s'est entendu sur le fil conducteur de cette série.
Oui, de façon à pas trop s'éparpiller plus. Et donc les projets alors à venir en deux sillages, bien entendu, et également en dehors de sillage.
Il y a deux projets parallèles à Sillage, on va dire, dans le même univers, qu'on avait, auquel on avait pensé il y a un moment, et on était en quête d'un dessinateur qu'on a trouvé, qui s'appelle Pierre Monichan, qui fait une série qui s'appelle Crossfire chez Soleil, qui fait une espèce d'histoire d'espion du Vatican. C'est assez marrant, et qui avait dessiné déjà une chronique de sillage. On avait fait une série qui s'appelait Chronique de sillage, où on avait des albums avec cinq histoires, cinq petites nouvelles. Il en avait fait une, et ça m'avait assez bluffé, son dessin, la façon dont il réinterprétait le personnage et tout. Et donc là, il va faire une sorte de super chronique qui sera une aventure complète de Nevis, qui sortira l'année prochaine. Et on a aussi un projet, mais là, qui traîne encore depuis plus longtemps, mais qui est très très long à monter, qui serait un guide de sillage. Un guide du... On va dire... on en a pensé, est-ce qu'on fait un guide, une sorte de H2G2 de sillage, mais une sorte de guide intergalactique vaste, où on sillage et inclus dedans. Et puis finalement, en discutant, on s'est dit que ce serait bien de faire un guide d'intégration. C'est-à-dire... vous êtes un galmoréen à tentacules, et on vous remet un petit fascicule qui vous explique un peu comment ça marche sur sillage, comment ça se passe. Il y a la découverte, et puis il y a les règles. Et donc c'est assez intéressant à faire, parce qu'on peut faire une espèce d'œuvre de propagande, puisque c'est édité par sillage. Donc sillage, c'est trop beau, c'est trop bien, il avance pour le bien de l'univers, enfin tout est parfait, ça roule. Et puis finalement on s'est dit que ce serait bien de rajouter une deuxième couche avec des annotations qui remettent un peu comment ça se passe dans la réalité, etc. Donc c'est un gros travail d'écriture. Donc on a fait appel à une personne extérieure au groupe, à Jean-David, moi et l'éditeur, qui se charge du rédactionnel et qui se débrouille très bien, et qui, on devrait sortir ça, je pense, pour fin de l'année prochaine, si tout va bien, si je réussis à faire aussi toute la masse d'illustrations qui va compléter le livre.
Il va accompagner le tout, effectivement.
Ouais, parce que j'aimerais bien, pour une cohérence totale, vraiment essayer d'avoir un seul type d'illustration. Donc j'aimerais bien le faire. Donc voilà ce qui est prévu. Et puis en dehors de sillage, il reste peu de temps finalement. Là pour l'instant, mais je pense j'ai fait des petites incursions, moi, parce que Jean-David en a moult, il a tellement de séries en cours que je peux même pas les énumérer toutes. Mais moi j'ai fait un jour J qui était Les Russes sur la Lune. C'était le premier tome d'une collection chez Delcourt aussi, du Chrony. Donc on se retrouve aussi bien aux Utopias aussi, qui continuent d'ailleurs, puisque ils ont des albums à toutes les époques. Je crois qu'il y en a aujourd'hui, il y en a déjà 7 ou 8, non?
Oui, il me semble que le dernier sur la Seconde Guerre mondiale.
Et j'avais fait un Wolverine aussi avec Marvel France, enfin c'est Panini, ce serait plutôt Marvel Italie. Marvel Europe, c'est les éditions Panini. Et c'était sympa aussi de pouvoir faire, mais c'est à chaque fois ce qu'on appelle un one-shot, en terme BD. Parce que je sais pas, il n'y a pas d'équivalent français. Un tir.
One-shot.
un tir. Et donc c'est sympa parce que je peux permettre avec un sillage de faire dans la même année deux livres, mais pas, guère plus.
Oui, effectivement. Ben, merci beaucoup en tout cas pour d'avoir répondu à ces quelques questions.
Et puis, merci à vous.
Bonne continuation et au plaisir de vous retrouver au prochain.
Avec grand plaisir parce que j'adore ce.
Ah oui, j'allais dire au festival aussi. Et au festival aussi.
Bien. J'adore faire sillage et j'adore le festival donc.
C'est parfait.
Question. Et puis là, je vais aller signer pour les fans en furie.
Merci beaucoup.
Merci.